Chapitre 12. Vox in deserto. Moi aussi, je suis là dans le désert. Sommaire. Les avantages de l'exil. La solitude sacre le mage. Elle favorise le prophète. Les anathèmes aux villes. Les souvenirs du lion du désert apparus dans l'étable. Il n'était pas indifférent non plus que son bannissement fût une solitude. La faculté de se recueillir, le loisir de se chercher et de se retrouver lui-même dans ses rêves et ses soliloques, toutes ces opportunités si nécessaires à l'inspiration, et que sa gloire grandissante menaçait de lui ravir, voici que le séjour des îles normandes valait lui dispenser de force et généreusement. À la faveur de cette solitude dont rien ne vient le distraire, il semble que la poésie éclose spontanément dans son âme et que la nature tourmentée des îles, avec ses vastes horizons, ses cieux changeants, ses récifs recueillis et souffrants que des flots ont sculptés en d'étranges formes, lui verse à profusion ses rêves. Mais il y a plus. C'est une idée très profondément ancrée dans son esprit que tout élu de Dieu est d'abord un solitaire. L'isolement développe dans les âmes profondes une sagesse d'une espèce particulière qui va au-delà de l'homme. C'est cette sagesse étrange qui a créé l'antique magisme. Ce jeune homme, son fils Charles, dans le désert de Jersey et dans le crépuscule de Guernesey, est, comme les autres solitaires pensifs qui l'entourent, atteint de cette sagesse. Une intuition presque visionnaire donne à plusieurs de ses ouvrages, comme à d'autres œuvres des hommes du même groupe, une portée singulière. Ce qui préoccupe ce jeune esprit, c'est ce qui préoccupe aussi les vieux. Mes fils. La solitude, écrit-il encore dans Les Travailleurs de la mer, tome 1, page 97, dégage un certain degré d'égarement sublime. C'est la fumée du buisson ardent. Il en résulte Horeb, Jean à Patmos, Ézéchiel sur le Kébar. Son personnage sacré retire de la solitude un double bénéfice. D'abord, elle le laisse seul face à face avec Dieu, face à face avec lui, face à face aussi avec la grande nature par où Dieu se manifeste à lui et dont il est l'interprète. Elle le sacre mage. Et l'on finit par prendre une altière attitude de tutoiement avec la sombre solitude. Toute la lyre, l'art, 8. Ensuite, en le séparant des hommes, elle lui donne l'indépendance et, si j'ose dire, le recul nécessaire pour leur parler avec autorité. Elle favorise le prophète. Le prophète cherche la solitude. Il va dans le désert penser à qui ? Aux multitudes. Puis il pleure. William Shakespeare, 6. Isaïe, dit-il, dans William Shakespeare, Les Génies, 4, c'est une espèce de bouche du désert parlant aux multitudes. Ô prophète, esprit qui songiez au désert, toute la lyre, le moi. Les prophètes pensifs sont loin des multitudes. 1855, toute la lyre, la pensée, 17. Dans la conscience de plus en plus nette des fonctions que lui impose son personnage sacré, Hugo s'applique à les remplir, à les vivre avec exactitude. Il est le mage. La solitude vénérable mène aujourd'hui l'homme sacré, plus avant dans l'impénétrable. Semblable au pasteur de Chaldée, livré au colloque des Nuits étoilées, il s'absorbe dans une contemplation dont rien ne vient le distraire, cherchant à lire dans un firmament idéal les routes offertes à l'humanité et le secret de sa propre destinée. Dans le désert, l'esprit qui pense subit par degrés sous les cieux la dilatation immense de l'infini mystérieux. 1854, contemplation, magnitudo par vie. Je passe quelquefois des nuits entières à rêver sur mon sort en présence de l'abîme, écrit-il à Villemain le 17 novembre 1859. Et j'en arrive à ne pouvoir plus que m'écrier « Désastre, désastre, désastre !» Songe Teller, redoutable tête-à-tête avec la nuit, qui ne laisse pas de lui verser leur ivresse surnaturelle et leur sainte terreur. Il est le mage effaré, en proie à l'égarement sacré. Crains l'inspiration farouche du désert, le désert est un lieu d'effroi dont Dieu se sert. Ô rêveur, ne va pas sur les cimes, j'en viens. C'est terrible. Crains les hauts lieux hantés par les spectres, les jeux, de l'abîme ne sont jamais plus orageux que sur les sommets formidables. craint les ascensions vers le haut sommet noir. Toute la lyre, l'art, 31. À mesure qu'au loin s'éclipse la plaine effacée au regard, toute une sombre apocalypse apparaît à l'homme hagard. Toute la lyre, la pensée, 22. Un peu de la gloire mystérieuse qui flottait autour de Patmos nimbe son île déserte, d'où il apparaît au monde émerveillé comme dans un nuage sacré. Il s'entoure sur son rocher de foudres et d'éclairs. Quand il descend de cet Horeb, c'est pour apporter au monde quelques formidables révélations. Il est le mage, mais il est aussi la voix du désert, voix redoutée, voix redoutable. Un justicier naît en lui du visionnaire. Il s'apparaît à lui-même sous les traits d'Élie sortant de son désert pour anathématiser la cité coupable et pour la convertir. Chaque après-midi le ramène à l'extrémité du promontoire appelé Rocher des Proscrits. Sa grande silhouette se découpe sur le ciel face à la mer. Il se tait et regarde. Là-bas, au fond de son rêve, par-delà la plaine liquide, dans une gloire de ville païenne, Paris chante et rit. La nouvelle Babylone, la Tyre moderne, a trouvé en lui un second Isaïe. Il va diriger contre elle tous les anathèmes que les prophètes sacrés suspendaient sur les cités perverses. Son rêve plonge tour à tour dans l'avenir et dans le passé. Tantôt, par un effort d'imagination, il devance les siècles. Il se transporte en un temps où seront déjà oubliées les villes qui remplissent le présent de leur bruit. « Où donc est Thèbes ?» dit Babylone pensive. Thèbes demande. « Où donc est Ninive ?» Et Ninive s'écrie. « Où donc est Tyr ?» Il reprend pour son propre compte les descriptions isaïques que Chateaubriand, dans une page célèbre des martyrs, avait déjà reproduites. Comment la ville autrefois, pleine de peuple, est-elle assise dans la solitude? Quelle ville a jamais égalé cette ville? Ses tours montaient dans l'air. Elle riait au chant de ses prostituées. Ville, est-ce qu'un voleur, la nuit, t'a dérobée? Où donc est Babylone? Hélas, elle est tombée. Elle est tombée, hélas. On n'entend plus chez toi le bruit que fait la meule. Ville, où sont tes bouffons? Nul passant désormais ne montera tes rampes, et l'on ne verra plus la lumière des lampes luire sous tes plafonds. Les contemplations pleurent dans la nuit. Que sont devenues les tours de la nuit? Où donc, ô vallée, s'en est-elle allée, la ville du mal? La ville ivre et fière, qui choquait son verre contre l'infini, qu'on entendait rire, qu'il cherche les voies et la fourmilière des femmes dansant, qu'il cherche les rampes, les jardins, les cours, le reflet des lampes aux rondeurs des tours. Coup de clairon, année funeste. Tantôt sa vision est rétrospective, le voici qui restaure et réanime les ruines. Il cherche dans leurs cendres la trace de leur splendeur. Il évoque leur prospérité enfuie, la musique des sistres et des luttes, le bruit des enclumes, des chars et des chevaux, les avenues frémissantes où les marchands et courtisanes se pressaient dans un fourmillement de vie. Puis une invisible poussée des vagues, et toute cette magnificence s'est écroulée comme une vision de rêve. Et c'est le dénouement même d'Ézéchiel. 27. Voilà que Tyr et ses richesses et son peuple immense ont été précipités au fond de la mer. Donc, cette ville était toute bâtie en briques. On y voyait des tours, des bazars, des fabriques, des arcs de palais pleins de luttes mélodieux et des monstres d'airain qu'on appelait des dieux. Cette ville était gaie et barbare. Ses places, on y chantait des chœurs pleins d'oubli. Jour et nuit, les clairons, les sistres, les hautbois chantaient dans l'ombre. Ainsi vivait la ville énorme. Les femmes y venaient pour s'y prostituer. Mais un jour, l'océan se mit à remuer. Nous voilà bien loin des tables. Non. Les visionnaires et les prophètes réincarnés en notre solitaire revivent en lui et parlent par sa bouche. Mais ce n'est pas seulement par ce lointain détour de la métempsychose que le mage et prophète moderne est tributaire des esprits de Jersey. Une association plus étroite, plus prochaine, rattache à leurs suggestions récentes son inspiration. Parmi les voix entendues à Jersey, il en est une, venue justement du désert, à laquelle la propre voix du poète fait écho manifestement. Le lion jersien d'Androclès est mage lui aussi et prophète. Le lion est le poète des solitudes. dit-il de lui-même dans la séance du 6 janvier 1854. Songeur du désert, vivant comme un mage chaldéen dans la familiarité des étoiles et de la nuit, il sait les secrets de l'ombre. Les pseudonymes qu'il se donne, symboliques et clairs, entourent son grand front, sa noble crinière, d'un halo sacré. Qui est là? Frons Ingent Deserti. 9 mai 1854. Qui est là? Le regard de l'ombre. 30 mai 1854. Qui est là? Vox Deserti. 25 avril 1854. Voix du désert, vivante protestation de la libre nature contre la servitude des villes, de la bonté naturelle contre les méchancetés humaines, ce réfractaire aux civilisations mauvaises incarne l'éternel Isaïe, le prophète aux anathèmes vengeurs. Les sixains superbes qu'il rugit par la table ne dépareraient point les plus belles contemplations. Le désert était sombre, aride, infranchissable. Le monde y succédait à la plaine de sable. À l'heure où le jour naît, seul dans ces vastes lieux où Dieu parle et se montre, comme un roi vers un roi, j'allais à la rencontre du soleil qui venait. Nous montions tous les deux dans nos fiertés superbes, le coteau lui dorant et moi foulant les herbes. Nous nous reconnaissions, j'étais fier de l'avoir pour hôte dans mon antre, il était fier de voir se mêler sur mon ventre mes crins à ses rayons. Ainsi je vivais seul, rêvant sous ma crinière, conduisant le soleil du ciel à ma tanière, majestueux, clément, redouté sans colère et fort sans violence, et disant au désert, juge si ton silence vaut mon rugissement. J'ouvrais dans la clarté mes paupières éblouies, j'écoutais par moments le prophète Isaïe chanter le Dieu qu'il sert, car nous appartenions à la même phalange, et nous nous répondions, moi le lion, lui l'ange, des deux bouts du désert. La bonté douce était l'haleine de ma bouche, j'eusse ordonné le calme à l'ouragan farouche. Dompteur des flots mouvants, j'aurais, en y mettant ma volonté de marbre, sous chacun de mes pieds plus fort que des troncs d'arbres, pris un des quatre vents. Le désert était vaste, infranchissable et sombre, j'y régnais lumineux, j'y levais mon front haut. Séance du 24 mars 1854. Pendant que je vivais sous les célestes voiles, regardant chaque soir resplendir les étoiles, comme si tous les yeux, des vivants endormis dans l'ombre et le mystère, dans le même moment se fermaient sous la terre et s'ouvraient dans les cieux. Pendant que j'écoutais dans mon austère étude le grand enseignement de l'âpre solitude, dans une cité sombre et qu'on appelait Rome, etc. Suit la description de la ville mentionnée précédemment, page 66, séance du 30 mars 1854. Il y a d'ailleurs ça et là, dans l'œuvre exilienne, tel mot, telle image, inaperçue du lecteur profane, qui révèle soudain quelles obscures associations unissent le souvenir du lion du désert aux évocations prophétiques. Quand il rôde au milieu des villes, Isaïe, sent par les noirs vivants sa grande âme haïe. 1856, toute la lyre, l'art, 27. Mais c'est déjà parlé de l'influence des tables sur l'œuvre du poète, et nous n'en avons pas fini encore avec l'influence sur l'homme. Les tables, violemment, l'ont arraché à lui-même. Elles l'ont poussé hors de son âme, vers le mystère des choses, vers la grande nature, vers Dieu. Soudain élargissement de perspective, subite déchirure d'horizon, par où d'immenses clartés font irruption tout à coup dans sa destinée, et ajoutent à son front l'auréole et le tourment du visionnaire, du prophète, et, nous allons le voir, d'un nouveau Messie.